Il y a un contexte de nation. Dans la ville de Suse et dans cet état de Babylone, il y a un mélange de peuples. Le roi Nebuchadnezzar, des années avant, était allé assujettir Jérusalem et tout le peuple de la Judée. Et il a mis en exil, pris les jeunes. Il a pris les jeunes, il a tous les jeunes garçons, beaux de figure comme on dit. Tu vois, c'est tout ça, c'est toutes ces gars qu'il a amenés en exil chez lui. La race des Daniel, tous les Daniel, Abel, Nego, Messac et tous les autres. C'est la race des Ézéchiel, ils sont venus dans la même couvée. Les Mardoché sont arrivés dans la même couvée. Ce sont les jeunes qui ont été pris et qui ont été amenés en exil. Alléluia. C'est aussi un peu par la même époque que Jérémie. Jérémie qui lui avait été choisi par Dieu pour annoncer justement ce que Nebuchadnezzar allait faire, ce qui attendait le peuple. Lui, il était resté à Jérusalem. C'est cette vague-là. Et c'est cette vague qui va aussi découler sur Esdras, cette vague qui va découler sur Zorobabel, sur Néhémie, etc. C'est toute cette vague de jeunes hommes qui ont grandi. Et il s'avère que dans ce contexte, il y a un peu le peuple juif qui vit à Babylone, en exil, dans un contexte, ne mangeons pas les mots, d'esclaves, de soumis, de sous-peuple. Donc il y a, parmi toute la population qui est à Babylone à ce moment-là, des populations, des peuples, qu'on va dire entre guillemets, de bien, qui ont le pouvoir et qui règnent, et d'autres qui survivent, quoi. Et dans ce contexte, il y a un homme nommé Aman, qui est un Assyrien, et comme la parole nous le dit, qui a été élevé en dignité par le roi Assyrus, qui en a fait son bras droit, qui en a fait son premier ministre, on va dire. On dit qu'il était le plus élevé en dignité après le roi. Ce Aman, tout le monde se prosternait devant lui quand il passait, bien sûr. C'était une marque de respect, de dignité par rapport à la fonction, par rapport à tout. Mais c'est aussi une marque d'allégeance, de soumission. Et il y avait une seule personne dans tout cet état qui ne se prosternait pas devant Aman. C'était Mardoché. Mardoché, malgré sa petite condition de vie, était attaché aux lois de son Dieu. Il est dans la même catégorie que les Daniels. Parce que nous connaissons l'histoire de Daniel avec le Nebuchadnezzar. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel qui a refusé de se prosterner. Daniel qui a refusé avec le prince de se mettre à la table du roi. Daniel qui a refusé d'obéir aux règles de Nebuchadnezzar qui l'obligeait lui à violer les règles de son Dieu. Il a dit non. Je ne me soumettrai pas à vos règles. Je n'adorerai pas vos dieux. J'ai mon Dieu et je me prosternerai que devant mon Dieu. C'est pareil. Mardoché a refusé de se prosterner devant Aman. Le roi sans doute ne sortait même pas de son palais. Il restait dans ses appartements. Ce qui fait que les gens qui étaient aux portes à l'extérieur, Mardoché n'a jamais eu à confronter le roi avant d'avoir été élevé en dignité. Mais il confrontait Aman. Et c'était vraiment un crève-cœur pour Aman. Tout le monde se prosternait devant lui. Il est dit ici, dans le chapitre 3, à son verset 5, il est dit, « Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. » Que quelqu'un dise « fureur ». Parce que ce sont des mots importants que lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, ce sont des mots que nous allons reconnaître. Ce sont des situations que nous allons reconnaître. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Tout le royaume d'Assyrus. Aman, rempli de sa fureur, a donc pris le parti de détruire tout ce qui ne lui était pas soumis, tout ce qui ne fléchissait pas les genoux devant lui, tout ce qui était du peuple de Mardoché. Voilà ce qui a commencé à monter dans le cœur d'Aman. L'extermination. Quelque temps avant ça, la parole de Dieu nous dit que Mardoché qui était aux portes et qui passait presque inaperçu par les gens, tellement c'était quelqu'un de basse condition. Généralement, les personnes qui pensent avoir le pouvoir ou qui règnent quelque part, ils font très peu attention à ceux qui grappillent autour d'eux, qui les servent. Ceux qui nettoient, ceux qui balaient, ceux qui jardinent, ceux qui mettent la maison, ils leur parlent avec arrogance, etc. Et parfois, il arrive que ils parlent ouvertement des choses, même auprès d'eux, sans prendre conscience que celui-là peut entendre. Tellement ils ne le considèrent pas. C'est ainsi que Mardoché a surpris une conversation entre des personnes placées dans la royauté qui parlaient entre eux d'une action qu'ils allaient mener. La parole de Dieu dit, chapitre 2, dans son verset 21, « dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi Bigam et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation. » Que quelqu'un note irritation. Nous avons déjà vu la fureur d'Aman. Maintenant, on nous dit qu'il y avait deux gardiens du seuil qui ont cédé à un mouvement d'irritation et voulu porter la main sur le roi Assyrus. Voilà comment on commence à fomenter des choses. Voilà comment, sous le coup de l'irritation, on commence à fomenter les choses. Nous, on est trop fâchés. Donc maintenant, là, on va agir comme ça, on va agir comme ci. Mais Mardoché eut connaissance de la chose et en informa le roi, la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Amen. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Donc voilà une présence qui a sauvé la vie du roi, qui a fait déjouer un complot qui était ourdi. Alléluia. Passons. Nous allons procéder un peu par séquence dans les chapitres qui suivent. Parce que je veux que nous puissions prendre la mesure des choses. Nous avons un tableau qui s'est posé. Nous avons d'un côté le roi qui est dans son palais et sa reine Esther qui est aussi dans son palais. Nous avons de l'autre côté Aman qui est son premier ministre qui sont dans ses appartements privés et dans son honneur. Et nous avons Mardoché qui est un représentant à la limite d'un peuple soumis, d'un peuple soumis à l'esclavage et qui traîne comme ça dans la cour du roi. Voilà le tableau. Nous allons donc essayer de parcourir, je vais essayer de partager avec vous des choses que moi j'ai relevées dans les processus, dans la façon de fonctionner des différentes personnes. Et c'est tout ça qui va concourir au jeûne d'Esther. Je veux que nous comprenions le contexte et que nous en tirions des leçons. Amen. Je vais partager avec vous les révélations que moi j'ai eues. Nous allons prendre d'abord comment Aman a procédé. Après qu'il ait mis dans sa tête d'exterminer Mardoché et tout son peuple, comment est-ce qu'il a procédé? Nous allons voir pour Aman. Ensuite, nous allons voir Mardoché. Comment est-ce qu'il a fonctionné depuis ce moment-là? Ensuite, nous allons voir Esther. Comment Esther a fonctionné. Et nous allons voir le roi. Comment le roi a fonctionné. Parce que tout ça concourt à un contexte qui, moi, s'apparente au contexte des nations et particulièrement en cette saison, au contexte de notre pays, le Cameroun. Et vraiment, nous, enfants de Dieu, nous devons fonctionner selon ce que nous enseigne la parole de Dieu et nous positionner de façon à ce que Dieu, qui est le maître de cette vérité, ses anges et son esprit, puissent agir conformément à la volonté du Père, pas à notre volonté. Alléluia. Comment Aman a procédé? Aman est furieux et Aman veut exterminer les peuples qui ne se prosternent pas devant eux, c'est-à-dire des peuples qui ne respectent pas sa position. Il veut exterminer tout ce qui s'oppose à son pouvoir. En fait, c'est ça. Tout ce qui s'oppose à son pouvoir, tout ce qui se rebelle contre son pouvoir, Aman veut les exterminer. Et il en a pris la résolution. Comment est-ce qu'il procède? Premièrement, il a pris le temps, sachant que Mardoché et son peuple étaient le peuple juif et qui s'attachait à un Dieu. Et connaissant le Dieu de Mardoché, il ne faut pas que nous croyions, nous enfants de Dieu, que ceux qui sont dans le monde, eux aussi ils ont leur Dieu. Et eux aussi ils savent aller là où ils vont chercher leur force et leur puissance. Aman fait ceci. Aman n'a rien fait sans aller consulter ses dieux à lui. Il est dit dans la parole, au premier mois, qui est le mois de Nissan, et je vous rappelle que le mois de Nissan, c'est le mois de la Pâque. Au mois de Nissan, au cours de la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ça signifie quoi? Jeter le pur ou le sort? C'est que Aman est allé consulter les diseurs de bonne aventure. Aman est allé consulter ses marabouts. Aman est allé consulter ses féticheurs. Aman est allé consulter ceux qui lui donnent ses oracles. Ceux qui étudient les cartes. Ceux qui jettent, quand on dit qu'on jette le pur, c'est-à-dire qu'on ouvre les cartes devant toi ou qu'on utilise des gris-gris que l'on jette comme ça pour te dire ton avenir. Aman est allé les consulter. Ça veut dire que Aman a lui aussi posé un acte, on va dire entre guillemets, spirituel. Ça veut dire que la bataille ici que nous menons, le parcours ici que nous faisons, il ne faut pas voir ça avec vos yeux physiques. La bataille est spirituelle. Et le contexte de notre nation est spirituel. Ceux qui veulent rester sur le plan physique ont déjà perdu. La bataille est spirituelle. Et mes frères et mes sœurs, détachons-nous des choses physiques et positionnons-nous spirituellement. Vraiment, positionnons-nous spirituellement. Parce que nos adversaires, ceux qui vont consulter le monde des ténèbres, ils se positionnent sur le plan spirituel, mais du côté des ténèbres. Nous restons dans la lumière de notre Dieu. Restons dans la lumière de notre Seigneur Jésus. Et étudions la parole. Parce que c'est une épée qui est forte. Alléluia. Il a jeté le pur. Il était au premier du mois de Nissan, c'est-à-dire au début de l'année biblique. Et il a fait qu'on consulte chaque jour de l'année. Chaque jour, tous les mois. On a jeté le sort devant lui. On a fait ses gris-gris, tourné ses fétiches, jusqu'à lui donner le jour exact, le plus favorable pour lui, pour mener ses desseins. Et on a jeté, et ils ont défini qu'ils allaient utiliser le 13e jour du 12e mois de cette année-là. Et ils ont commencé à appeler ce jour-là le jour J. Mes frères, mes sœurs, s'il y a un jour J qui a été défini pour le Cameroun, dans quelque sens que ce soit, nous devons soumettre ça au travers du jeûne d'Esther. pour l'annuler au nom de Jésus. Alléluia. Un jour, J a été arrêté par Aman pour ses méfaits. Maintenant qu'il avait le jour J, et fort de sa position, il est allé voir le roi, c'est-à-dire son autorité. C'est quand le roi donne son anneau et donne les pouvoirs, généralement il est dans son palais. Et il se dit, mes premiers ministres, mes ministres, ils travaillent, ils viennent me rendre compte. Aman se lève et va voir le roi. Comment est-ce qu'il procède? Les accusations, les intrigues, la corruption. Voilà ce qu'il dit au roi concernant Mardoché et son peuple. Alors Aman dit au roi Assyrus, nous sommes au verset 8. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples. Ça, c'est une accusation. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Voilà. Première accusation. Tu sais, roi, tu es assis là, tu crois que tu es roi. Mais il y a ici parmi nous des personnes qui ne respectent pas tes lois, qui ne te considèrent pas comme roi. Ils font leurs choses selon leurs lois. Ils sont en porte-à-faux avec nos propres lois. Voilà l'accusation. Première chose, les gens fonctionnent par accusation. On accuse. Deuxièmement, ils passent aux intrigues. Parce que s'ils n'intriguent pas, le roi risque de réfléchir logiquement, de ne pas y trouver un problème puisque ça ne dérange pas. Non, il va intriguer. Et qui dit intrigue dit ruse, qui dit ruse dit mensonge. Alléluia. Et il intrigue et il dit, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Il n'est pas dans ton intérêt de le laisser en repos. Ça m'a fait penser au peuple juif lorsqu'ils étaient en Égypte. Tant qu'il y avait Joseph, on les laissait travailler et tout. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode qu'il vient un jour un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il vint un jour un dirigeant qui ne connaissait pas Joseph, donc qui n'avait aucune connaissance de ce que Joseph avait pu faire pour l'Égypte et qui faisait que les autres pharaons lui étaient reconnaissants. Ça a permis que des gens autour du pharaon aillent leur dire, il y a un peuple ici. Il se multiplie à une vitesse. Si nous ne faisons pas gaffe, un jour, ils vont s'allier avec nos ennemis et ils vont nous renverser. Il faut qu'on les réduise en esclavage. Qu'on leur retire tous leurs droits, qu'ils ont réduits en esclavage. Qu'ils périssent même dans ce dur labeur. Voilà l'intrigue. Voilà les accusations. Et voilà ce qui se passe en ce moment. Peu importe de quel côté, moi je n'ai pas envie de savoir. Que ça vienne de n'importe quel coin, je n'ai pas envie de savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Aman et des rois. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Aman, des rois, des Mardoché et autres. Et qu'il y a une situation, un contexte national qui subit ça, des accusations, des intrigues, des corruptions, etc. Et qui fait en sorte que nous arrivons à une situation explosive. Qui a raison, qui a tort? Personnellement, j'en ai rien à cirer. Car seul l'Éternel connaît la vérité. Mais ce qui est, c'est que ça crée des situations qui vont être préjudiciables aux populations, à la création de Dieu et au plan de Dieu pour le Cameroun. C'est pour ça que je me lève en tant qu'intercesseuse. Et je tends l'oreille, j'entends ce que me dit mon Père. Et je me mets en disposition, en prière et en jeûne, afin que son règne vienne, afin que sa volonté se fasse. Lui, il sait certainement ce qu'il veut faire. Et quand il se lève pour faire, personne ne peut s'y opposer. Alléluia. Mais il a besoin que nous nous levons, afin qu'au travers de notre disposition, de notre disponibilité, de notre engagement, il puisse agir. Alléluia. Aman continue Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Je me suis dit, mais attends, voilà Aman qui est censé être un subordonné du roi. C'est lui qui propose l'argent maintenant. Je pensais que c'était le roi qui avait le regard sur toute la fortune. Je pensais que quand il y avait un roi, tout lui appartenait, en tout cas. Dans notre royaume à nous, le royaume des cieux, tout appartient à notre Seigneur Jésus, qui a eu la largesse de cœur de nous faire co-héritiers de son héritage. Tout appartient à Dieu notre Père. C'est comme ça que fonctionne le royaume des cieux. Le royaume des hommes, voilà un roi à qui on vient proposer. Moi, je n'ai pas compris ça. Je ne vous cache pas. Moi, j'ai seulement vu que bon, si tu utilises l'argent pour pouvoir obtenir les faveurs de quelqu'un, c'est que tu le corromps en fait. Donc, il y a corruption là. Tu parlais des fonctionnaires, donc, tu veux corrompre tout le monde pour qu'on fasse les choses comme tu veux. Tu vas sortir 10 000 talents d'argent. Toi-même, Aman, c'est le roi qui t'a élevé. De rien. Si c'est toi qui dois proposer l'argent, c'est que toi, tu es un vrai voleur. Parce que l'argent là appartient à l'État. L'argent appartient à au territoire d'Assyrius, au peuple de Suse et tout le territoire, aux populations. Mais toi, tu viens, tu t'assois dessus, tu voles tout l'argent, c'est toi-même qui vas encore proposer ça au roi pour lui soutirer des faveurs de déchéance. Oh! Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Enfant de Dieu, ça vous parle? Intercesseur du royaume, ça vous parle? C'est une situation qu'on voit dans tous les pays. Je ne vais même pas seulement dire les pays africains, même les pays européens. C'est une situation humaine. Les hommes, dès qu'on donne un petit pouvoir, ils perdent la tête et voilà ce que ça devient. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux qui va leur rappeler de temps en temps d'avoir un peu de mesure, la crainte de l'Éternel, l'amour du prochain. Le service, ils n'ont pas ça. Ils veulent la gloire, ils veulent l'honneur, ils veulent le pouvoir pour écraser les autres, pour décider de les exterminer, pour avoir un droit de vie et de mort, pour en faire des esclaves. C'est pas comme ça. Dieu n'a pas donné à l'homme cette autorité pour dominer sur l'homme. Il lui a dit de dominer sur les animaux, sur les plantes, sur la terre, et en plus pour la garder et la cultiver. Mais l'homme, voilà comment il fonctionne. C'est Aman en personne, surtout l'homme qui a un peu de pouvoir. Que le Seigneur nous en préserve. Alléluia. Une fois que il a dit ça au roi, bien sûr il a effrayé le roi par rapport à son trône. Si tu effraies le roi par rapport à ton trône, la moindre des choses, étant humain lui aussi, il va dire que, mais qui veut me dégager de ma place? Moi j'aime ma place, hein? Je suis là. Donc vraiment, si ce que tu me proposes là va empêcher qu'on prenne ma place, va faire. C'est comme ça que le roi Assyrus lui a donné. Le verset 10 de ce chapitre 3 nous dit: le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman. C'est une délégation de pouvoir suprême de retirer son anneau royal pour donner à quelqu'un, parce que c'est avec l'anneau royal et le sigle du roi que l'on met le sceau sur les documents pour qu'ils deviennent officiels. C'est comme si un président de la République dit: bon, voilà mon cachet, voilà mon sceau, va sceller ce que tu vas écrire. Il retira son anneau et le lui donna. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Wow! Fais-en ce que tu voudras. Mon Dieu! Où est-ce qu'il a été dit? A-t-il été dit dans des réunions privées, quelque part? Allez, faites ce que vous voulez de telle ou de telle population, de tel ou de tel groupe de personnes, de tel ou de tel peuple. Est-ce que l'anneau, le sceau, a été remis pour aller enclencher les méfaits de part et d'autre, peu importe. Que cela passe sous le jugement de l'Éternel au nom de Jésus. Au travers de nos jeunes, que cela passe sous le jugement. Alléluia. Dieu seul connaît la vérité. Et Dieu seul a un plan merveilleux pour nous. Que le plan de l'Éternel se mette. Et que le plan des hommes soit voué à l'échec au nom de Jésus. Troisième étape pour Aman. Il veut officialiser son programme d'extermination. Il veut officialiser son programme de finalisation. Et le 13 du mois de Nissan nous dit la parole. C'est-à-dire, il veut donner un sceau, puisqu'on lui avait dit que le 13 du mois d'Adar, 12 mois plus tard, allait être le bon jour. Il a choisi exactement le jour correspondant pour rentrer dans une conjoncture précise qui lui soit en faveur. Mais il a oublié que celui qui est le maître des conjonctures favorables, c'est l'Éternel Dieu le Créateur, et qu'il a donné pouvoir à Jésus-Christ de venir être le maître des temps et des circonstances. Alléluia! Par son sang versé à la croix pour la création de Dieu. Amen! Nous sommes dans ce contexte et nous prenons ce sang et nous établissons Christ comme le maître des temps et des circonstances. Alléluia! Ce qu'il est profondément. Il choisit ce jour du 13 mois de Nissan et il convoqua avec le pouvoir qui lui a été donné tous les secrétaires, tous les satrapes, tous les hauts fonctionnaires, tous ceux qui étaient chargés de rédiger, de concevoir. C'est comme si on allait maintenant, on convoquait tous les instants, on convoque les députés, on convoque la Cour suprême, les gens de loi, on convoque les ministères, on convoque tout le système est convoqué. Parce qu'on doit rédiger des édits, on doit rédiger des lois, on doit rédiger... Quand vous voyez souvent, mes frères et sœurs, dans un pays, on commence à mobiliser... L'assemblée se mobilise, on sort les lois et tout ça, et on commence à proposer des lois, on commence à toucher la constitution, on commence à manipuler les sociétés, c'est ça. On commence à sortir les décrets ministériels, les décrets ceci et les décrets cela. C'est ça. Il a convoqué toutes ces personnes-là qui avaient des pouvoirs délégués pour pouvoir officialiser quelque chose. Et des décrets ont été rédigés. Des édits royaux ont été rédigés. Et quel était le message qui était porté dessus? Le chapitre 13, le verset 13 nous dit: les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Et pourquoi? Pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fisse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Voilà ce que portait le décret. Mes frères, mes sœurs, ô peuple de Dieu, regardez. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans l'obscurité. Quand on fait les décrets iniques sur la tête des gens. Quelle décision unique a été prise? Quelque part, j'en sais rien. Mais si Dieu nous interpelle et nous demande de nous lever en cette saison, c'est qu'il y a quelque chose qui a été prise. Bien avant peut-être, mais qui est imminent, dont l'application est imminente, mes frères et sœurs. Si l'Éternel nous réveille, et si Dieu nous dit qu'il monte à la brèche, l'Éternel Dieu a entendu les cris de ses enfants. Je vous assure, le Cameroun prie. Je vous disais lors du dernier séminaire que quand on prie beaucoup et qu'on ne reçoit pas ce que l'on prie mal. Mais parfois, il y a plusieurs types de prières. Il y a les cris de lamentation. Il y a les pleurs. Il y a les cris d'innocence. Il y a les cœurs contrits. Tout cela, ça touche le cœur du Père. Mais cela seulement ne suffit pas pour que le Père intervienne. Il faut qu'il y ait d'autres catégories de personnes qui montent à la brèche et qui permettent. Et qui fassent les choses de façon à ce que... Alléluia. Et voici le temps. Alléluia. Si nous voulons voir le règne de Père venir et sa volonté seule se faire sur le Cameroun. Sa volonté qui seule apporte plénitude de bien-être, des plans de bonheur pour tout le monde, pour sa création. Nous devons nous lever, mes frères et sœurs. Ces lettres ont été diffusées, publiées. Le peuple a été invité, incité même, à rentrer en action le jour J. Il y a un jour J, ce jour J précis, où quelque chose doit se passer. Où ils doivent se lever, parce que les lettres disaient, pour se tenir prêt pour ce jour-là. Se tenir prêt pour détruire, tuer, faire périr et piller. Oh, quel programme! Quel programme! Qu'est-ce qui en restera? Les courriers partirent en toute hâte. On a dépêché des coursiers partout. Chacun allait dans une direction. D'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, c'est-à-dire dans la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire, la ville de Suse était dans la consternation. Que quelqu'un note ce mot, fureur, irritation, consternation. Alléluia. Le peuple était dans la consternation. Parce que dans la capitale, quand on est venu afficher, c'est comme si on passait à la télévision et on lisait un décret. Une décision qui a été prise. Ou qu'on commence à publier dans les journaux officiels une décision qui a été prise et qui concerne tout le monde. Ou qui informe d'une situation. Quand le peuple est en la consternation, ça veut dire que la nouvelle là n'est pas bonne. La nouvelle n'est pas bonne. On dit que toute la ville était dans la consternation. La ville n'est pas seulement peuplée du peuple qu'on veut détruire. La ville n'est pas seulement peuplée de ceux qui étaient accusés sur le roi. La ville est peuplée de tous, même ceux qui n'étaient pas accusés. Même ceux à qui on est en train de donner cet ordre. Ils sont consternés parce que ce qu'on leur demande de faire quand même, on te demande chez toi, lève-toi, va tuer, va détruire, périr et tout, et pille. Ah, mes dirigeants, je suis tranquille chez moi. Maintenant, tu me donnes un ordre, lève-toi, va tuer. Hey, c'est pas tout le monde qui a le sang de tuer, le désir de tuer. Il y a dans les populations les gens qui ont la crainte de l'Éternel, les gens qui sont de bon cœur, les gens qui aiment leur prochain. Tu me demandes de me lever, voilà mon voisin, tu me dis, va le tuer. Hey. Et en plus, c'est un édit du roi. Ça veut dire que si je ne le fais pas, je suis passible moi-même d'une peine, puisque je n'obtempère pas à l'ordre royal. Mais c'est grave, ça. C'est grave. C'est grave, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui se passe quand on entend dans les toits, tout dans, même dans le cœur des gens qu'on partage, la consternation, la situation de nos pays. Ça consterne les gens. Ce qui se passe, ça consterne. Parce que personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné. D'une façon comme d'une autre. C'est une situation qui impacte la vie de tout le monde. Ça rend le séjour du pays pas bon du tout. Poursuivons. Nous constatons que cette situation un peu découle de quelques points. Ça découle de l'orgueil d'Aman, qui a suscité son aversion pour Mardoché, qui ne se prosternait pas devant lui. Ça découle aussi des mauvais conseillers autour de Aman, Parce que quand nous lisons les passages suivants, nous nous rendons compte que, après avoir fait ça, Aman était tellement fier, il est allé rassembler chez lui sa femme, ses amis qui grappillent autour de lui et tout ça, pour profiter de sa position royale et tout, et qu'il aime l'écouter pour lui dire qu'il est trop fort, pour leur dire vraiment comment il avait reçu du roi de faire tout cela, etc. Et plus tard, nous allons voir les raisons quand nous allons travailler Mardoché et Esther. Il a eu des mauvais conseillers. Quand la situation a commencé à tourner, son épouse et ses amis ne lui ont pas conseillé la modération, ne lui ont pas conseillé le retour en arrière, non. Ils lui ont dit, si celui devant qui tu viens de trébucher là, et du peuple dont tu nous parles, et a le Dieu que tu dis, ça veut dire que si tu ne fais pas gaffe, ta fin arrive. Donc ce que nous te conseillons, c'est de finir avec Mardoché maintenant. N'attends pas la date, le jour J pour Mardoché. Termine-le aujourd'hui. Et Aman a dit, vous avez même raison. Prenez un pieu, mettez un pieu de bois, je vais aller demander au roi l'autorisation de pendre Mardoché sur ce pieu-là. Je finis avec lui aujourd'hui. Laissons Aman un moment, parce que l'édit est déjà proclamé. Donc, tout le monde est au courant du plan de Aman.